Tu as toujours été très secret. Les Grecs et les Romains ont accompagné Claude Imbert comme des compagnons fidèles et des conseillers avisés, relate son fils et avocat Jean-Luc Imbert dans une biographie intime, Claude Imbert, un Romain en liberté, paru en 2021 chez Fallois. Contacté par Libération, ce dernier, qui a aussi coécrit La responsabilité médicale, aux éditions PUF en 85 avec Jean-François Lemaire, s'inscrit en faux contre le récit d'Inès, qu'Inès fait de son père. Je cite: Cela me paraît étrange de la part d'Inès de jeter le discrédit sur son père adoptif. Pour autant que je sache, Jean-François Lemaire et son épouse se sont magnifiquement occupés d'elle et de son frère. Quant à mon père, il aimait les femmes, mais pas les jeunes filles, mais pas les petites filles. Fin de citation. Pourtant, la lecture de certains passages de son livre Hommage à l'aune des viols qu'a perpétré Claude Imbert, selon Inès, se révèle aujourd'hui plus que troublante. Ainsi, ces lignes dans lesquelles Jean-Luc Imbert décrit un homme cultivant le secret, en veillant à maintenir une certaine opacité autour de lui, ne laissant transparaître que ce qu'il voulait bien, il avait plusieurs vies, assez cloisonnées les unes par rapport aux autres, au point que certains ignoraient purement et simplement ses autres vies. Il poursuit, je cite, Très rares étaient ceux parmi ses amis qui avaient une connaissance de l'ensemble de ses centres d'intérêt. Fin de citation. Dans l'excipit de son récit, Jean-Luc Imbert change de ton. Employant le tutoiement, il s'adresse à son père et aborde son rapport aux enfants. Je cite, Tu avais une relation étrange vis-à-vis des petits-enfants, dont tu ne savais littéralement que faire. Moralement comme physiquement, comment leur parler, quoi faire pour te mettre à leur portée. Ils étaient donc toujours mal à l'aise en ta présence, autant que tu l'étais d'ailleurs toi-même. Le moindre contact physique avec eux t'embarrassait, tu consentais un baiser du bout des lèvres, sur le front, que tu délivrais avec pour tout sourire un rictus plaqué sur ton visage. Fin de citation. Puis l'auteur s'interroge, je cite, Et si, ta vie durant, tu n'as fait que jouer un rôle, porter un masque que ta notoriété croissante t'interdisait de jamais déposer, derrière lequel se dissimulait un visage qui ne pouvait être vu et que seul tu connaissais, le contemplant chaque matin en te rasant. Tu as toujours été très secret, peu savaient qui tu étais, ou croyaient le savoir. Avais-tu, dans ton univers gréco-romain, réussi à percer l'énigme du « connais-toi toi-même » de Socrate? Fin de citation. Ces observations peuvent paraître anodines au lecteur. Elles prennent une toute autre tournure au regard du témoignage d'Inès. Un mythe au sein de la rédaction du Point. Plus de 50 ans après la création du Point, le nom de Claude Imbert a nécessairement pâli. Il n'en demeure pas moins un mythe au sein de la rédaction de l'hebdomadaire libéral-conservateur. Son tout premier éditorial, paru le 25 septembre 1972, reste un vade-mecum pour les journalistes du magazine, cité dans les réunions. Il est même affiché dans certains bureaux, s'enthousiasme Étienne Jarnel, son directeur actuel, dans la préface du livre de Jean-Luc Imbert, je cite. La main tremble quand il s'agit d'écrire Claude Imbert, confesse avec émotion un autre journaliste dans un portrait posthume publié en 2021. Au Point, il était pareil, l'empereur Trajan, le meilleur des empereurs romains. Fin de citation. Trajan qui, comme le souligne le latiniste et helléniste Florence Dupont, avait une passion pour les garçons et le vin, selon l'historien Dion Cassius. En 2000, Claude Imbert avait passé la main à François-Olivier Gisbert, qui devenait la nouvelle tête de gondole du Point. Il continuait d'écrire des éditos dans son journal jusqu'à ce que la maladie ne l'en empêche, avant sa mort en 2016, sans que jamais son masque ne tombe. 2 ans plus tôt, Jérôme Béglé, alors rédacteur en chef du site du magazine, décide d'offrir une chronique intitulée Le diable dans le bénitier à un vieil ami de Claude Imbert et membre de la bande de la rue du Bac, Gabriel Mazeneuve. La collaboration s'interrompt en décembre 2019, la veille de l'apparition du consentement de Vanessa Springora, racontant sa relation d'emprise pédocriminelle avec l'écrivain. Claude Imbert n'est plus là pour constater la déchéance de son partenaire. Pour Inès, 10 ans de violences sexuelles et des décennies de silence. Atteinte sexuelle, viol, photo pédopornographique. 35 ans après une enfance traumatisante, Inès a porté plainte auprès de l'Office des mineurs, une enquête qui court déjà depuis 8 mois. Elle dénonce les violences que lui ont fait subir un groupe d'hommes très influents, proches de son père adoptif, Jean-François Lemaire. Chez Inès, la plupart des émotions sont enfouies. Rester impassible, ne rien laisser deviner de la douleur endurée, c'est précisément ce que lui demandaient ses agresseurs en la violant avec des objets. Subir en silence, c'est aussi ce qu'elle s'était forcée de faire pour protéger sa mère, Lucienne. Car dans son huis clos familial, un schéma pervers a longtemps eu cours pour attiser la culpabilité de ses 2 enfants, Inès Chatin et son grand frère, également adoptés, et les asservir, leur père adoptif, le médecin Jean-François Lemaire, s'acharnait sur son épouse. Si on posait une question, c'est elle qui prenait. Elle reste hantée par le soir où le maire l'a projetée dans le grand escalier de leur domicile. Emmurée dans ce mécanisme, elle n'a pu interroger ses origines et verbaliser son passé qu'après le décès de Lucienne. Il aura fallu que maman meure pour qu'elle soit enfin en sécurité. Sans cela, je me serais sûrement tue, murmure-t-elle. À cela, il faut ajouter qu'en ayant été la victime directe des amis les plus intimes de son père adoptif, qu'elle a continué de côtoyer à l'âge adulte, certains étaient même invités à son mariage en 1997, elle aurait resté psychologiquement assujettie. Près de 35 ans après, Inès accepte à grand-peine de décrire les scènes les plus crues de son enfance. Libération a pu l'éprouver lors des 60 heures d'entretien réalisées dans les locaux de ses avocats Marie Grimaud et Rodolphe Constantino. Si certains traumatismes de son enfance et adolescence semblent aujourd'hui apprivoisés, il suffit parfois d'évoquer un nom, un lieu, un objet pour en voir certains se réactiver violemment. Elle se recroqueville, son élocution ralentit, allant parfois jusqu'à fixer le sol, mutique. En un instant, Inès redevient, à 50 ans, la petite fille qu'elle était, rue du Bac. Le psychologue Jean-Luc Viau, qui l'a longuement expertisé à la demande de ses avocats, constate qu'Inès souffre d'un trouble de stress post-traumatique complexe, dont les manifestations oscillent entre plaques sur la peau, angoisse se traduisant par des crises respiratoires, claustrophobie, peur persistante et honte. Si elle a pu se reconstruire une vie familiale et sociale, entre guillemets, normale, elle est mariée et a deux enfants, c'est selon Jean-Luc Viau au prix d'une dissociation d'avec la souffrance psychique venue de son enfance. Pour autant, l'expert estime qu'elle n'a pas souffert d'une amnésie traumatique et que son incapacité à donner des dates précises, comme de nombreuses autres victimes d'actes du même type, ne doit pas pour autant invalider les souvenirs qu'elle a de ses agressions. Il en conclut, je cite, le traumatisme complexe, les éléments dissociatifs, anxiophobiques et la souffrance vécue, réminiscence, difficulté amnésique, n'altèrent pas son rapport à la réalité ou sa capacité à gérer les relations sociales. Il s'agit de troubles qui la font davantage souffrir dans son rapport à elle-même, sa vie de femme, de mère et ses activités professionnelles témoignent d'une résilience partielle malgré une souffrance psychique qu'elle a supportée faute de pouvoir parler. Fin de citation. Lors du dépôt de plainte qu'elle a effectué le 14 décembre 2023 à l'Office des mineurs, l'OFMINE, long de plus de 7 heures, elle a d'ailleurs pavé son récit de détails extrêmement précis qui ont retenu l'attention des policiers. Depuis quelques semaines, les enquêteurs disséquent également, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, les milliers de pages de documents qu'elle a versés à l'appui de ses déclarations, tous certifiés par huissier. Petite parenthèse, qu'est-ce que l'OFMINE? L'Office des mineurs est un service d'enquête chargé de diligenter les procédures judiciaires. 1. Sur les profils des pédocriminels les plus à risque, identification des producteurs de contenus pédocriminels, investigation sur le darknet, enquête sous pseudonyme. 2. En soutien des services territoriaux, co-saisis dans les enquêtes. 3. En lien avec les services de police étrangers partenaires dans le cadre de la coopération européenne et internationale, point de contact international, participation à des task force. Quel est son rôle? L'Office des mineurs est chargé de lutter contre les infractions les plus graves commises à l'encontre des mineurs, et notamment 1. L'exploitation sexuelle en ligne, production, possession et diffusion de contenus pédocriminels, grooming à des fins sexuelles, sextorsion, corruption de mineurs, live streaming. 2. Les viols et agressions sexuelles, y compris incestueux ou commis dans le cadre institutionnel, milieu scolaire, périscolaire, associatif ou religieux. Les violences physiques ou psychiques graves, infanticide, bébé secoué, maltraitance. 3. Le harcèlement en milieu scolaire, y compris celui commis en ligne. Pour Inès, ce premier témoignage marathon devant la justice fut un Everest. Jusqu'au dernier moment, j'ai pensé ne pas y arriver. Puis en arrivant, j'ai vu les gardes qui surveillent le bâtiment avec des pistolets à mitrailleur. Là, je me suis dit, c'est bon, je suis en sécurité, je peux enfin raconter. Eu égard à l'extrême violence des scènes rapportées par Inès, il a été convenu avec elle et ses avocats de ne pas en rapporter certaines à la première personne du singulier. Donc on s'appuiera sur ces déclarations figurant dans le procès-verbal du dépôt de plainte. Pour comprendre les faits qu'elle dénonce, il faut distinguer deux types d'événements, ceux commis par un groupe d'hommes sur plusieurs enfants simultanément, qui sont les plus anciens, et les viols commis sur la seule personne d'Inès par Claude Imbert et Gabriel Mazneff, à un âge plus avancé. Nourrie par 2 années d'échanges avec ses conseils et des membres de sa famille, et après une plongée minutieuse dans les archives exhumées au 97 rue du Bac, sa plainte fait état de crimes qui pourraient s'étirer de 1977 à 1987, soit pour Inès de ses 4 à ses 13 ans. Son frère n'a pas souhaité donc s'impliquer plus avant, mais il a confirmé. Il apportait des objets comme s'il y avait une soirée à thème. Selon Inès, la première séquence des violences débute à une période où elle n'habite pas encore au 97 rue du Bac. En 74, lorsqu'elle est adoptée par le couple Lemaire, ses parents n'occupent pas encore le mirifique appartement du premier étage, mais logent dans l'un des entresols de l'immeuble pour cause de travaux. Les enfants, eux, sont hébergés à quelques minutes à pied rue de Varennes avec leur nurse. Surnommée Zazel, contraction de mademoiselle, cette dernière est aujourd'hui décédée. La mère ne venait jamais dans cet appartement. À cette époque, Lucienne ne voyait ses enfants que la journée dans des parcs, surtout celui du musée Rodin, dont Inès dispose de souvenirs très précis. Le soir venu, Lucienne partait dormir chez sa sœur, comme cette dernière le confiera plus tard à sa nièce adoptive. Pourquoi ce mode de vie séparé? Selon François Gibault, cet arrangement tenait à la nature de l'union des époux Lemaire, un mariage blanc, destiné à masquer l'homosexualité du docteur aux yeux d'un microcosme catholique et ultra-conservateur. L'avocat a fait cette confidence à Inès en 2022, chez lui, dans son hôtel particulier de la rue Monsieur, dans le 7e arrondissement. Peu après les aveux de son père adoptif, qu'elle avait longuement interrogé à l'EHPAD. Toutefois, il n'était pas question d'homosexualité dans la bouche de Jean-François Lemaire, mais de pédocriminalité dont il justifiait, avec un détachement glaçant, le bien fondé, sans s'excuser une seule seconde. C'est dans ce contexte que les premiers crimes ont débuté en 77. En fin de journée, parfois après l'école, elle se rappelle précisément y être allée avec un cartable. Inès était emmenée dans un troisième lieu, un appartement situé au 33 ou au 35 rue de Varennes. Je cite. Cet appartement n'était pas meublé comme un lieu de vie. Il y avait de l'espace. Certaines fois, on nous emmenait après l'école. Il y avait un temps avant l'arrivée des hommes. D'autres fois, les hommes étaient déjà là. Zazel nous emmenait là-bas et elle nous laissait là-bas, expliquait-elle aux enquêteurs. Fin de citation. Débutait alors ce qu'elle nomme des jeux. Un enchaînement d'atteintes sexuelles sordides sur des enfants. Dans son souvenir, les enfants étaient à peu près aussi nombreux que les hommes présents, environ 5 ou 6. Il y avait plus de garçons que de filles. Les premiers étaient blancs de peau, alors que les secondes étaient toutes métissées ou d'autres origines. Avant le début de ces jeux, elle devait ingurgiter une boisson blanchâtre, probablement un décontractant musculaire, qui donnait une impression d'ivresse comme si on flottait. Mais surtout, ça faisait mal au cœur. Inès précise encore que les enfants devaient se déshabiller, mais pas totalement, que le bas. Quant aux hommes, ils avaient le visage masqué, avec sur eux une sorte de cape ou de manteau, des apparats dont elle ne peut donner la signification. Les participants, qu'elle ne peut tous identifier, et qui n'étaient pas forcément les mêmes d'une séance à l'autre, arrivaient munis de divers objets métalliques. Avec, ils réalisaient des actes de pénétration sur les enfants, en les encerclant, chacun leur tour, mais sans contact physique. Ils apportaient des objets comme s'il y avait une soirée à thème. Ils les utilisaient pour tester la résistance à la douleur de nos endroits intimes, rapporte Inès. Parmi eux, des pièces d'argenterie, ainsi qu'un exemplaire très particulier de coupe-papier de la marque Christophe, créé par le sculpteur Jean Fillos. En effet, ce coupe-papier a un manche court, fait de petits personnages en pleine partouze. Voici dans l'article, vous verrez d'autres liens vers d'autres créations de joaillerie dites érotiques, extrêmement chères, dont vous verrez donc ce vagin à la fois vulgaire et classe. Sur son bas-relief, les pénétrations étaient effectuées donc avec ce manche. Les femmes dénudées sont représentées dans une scène orgiaque inspirée de ce passage des Métamorphoses d'Ovide que le groupe d'hommes proches de Jean-François Lemaire appelait le roman des romans. Je cite, c'était l'époque de la traditionnelle célébration triennale des mystères de Dionysos par les jeunes femmes de Citonie, la nuit est la confidente des mystères. Fin de citation. Ces gens-là sont dans mon enfance tout le temps. Cet objet incarne la quintessence de la soumission pour Inès. Selon elle, ceux qui en détenaient un exemplaire, elle cite Claude Imbert et François Gibault, ce dernier débat en avoir possédé un, le laissait sciemment en majesté sur leur bureau, notamment le père adoptif et Claude Imbert. Je cite, quand cet objet est dans la pièce, je suis incapable de dire un mot, admet-elle encore aujourd'hui. Fin de citation. L'exemplaire que possédait Jean-François Lemaire, retrouvé rue du Bac après son placement à l'EHPAD, a été récupéré par ses avocats. Il est stocké au cabinet, qui en ont fait des photographies transmises à l'OFMIN. Je cite, en révélant l'existence de cet objet à l'autorité judiciaire, notre cliente se libère de son avilissement et désarme symboliquement ses agresseurs, observe son avocate Marie Grimaud. Fin de citation. Dans son expertise, le psychologue Jean-Luc Viau souligne lui aussi la très forte notion d'appartenance à ces hommes développés par Inès en raison de ce sinistre processus d'objetisation. S'il lui est impossible de donner avec certitude une notion de fréquence de ces jeux, Inès implique plusieurs participants. Claude Imbert, Jean-François Lemaire, Jean-François Revel, Gabriel Mazneff, François Gibault. Je cite, « Ces gens-là sont dans mon enfance tout le temps. Pas seulement de Varennes, détaille-t-elle. Ils s'invitaient perpétuellement à la maison ensuite, rue du Bac. Pour eux, l'identification se fait donc sur le timbre de voix, le regard, la démarche, la corpulence, mais aussi les odeurs. » Fin de citation. Quasiment borgne de l'œil gauche, depuis un vieil accident de la route, son père adoptif est ainsi aisément reconnaissable, même sous un masque. Idem pour Claude Imbert, intime de Jean-François Lemaire depuis le lycée Carnot et qui passerait presque pour un oncle. Je cite, « Gibault, Mazneff, Revel, c'est les récurrents », ajoute-t-elle dans l'édition de l'Ofmin. C'est ceux-là les plus faciles à reconnaître. Mazneff, il a un côté lisse et féminin. Revel, lui, il est très lourd, sans mauvais, transpire beaucoup. Elle le surnomme l'ogre. Il pourrait mettre 40 capes et masques, que je les reconnaîtrais. Fin de citation. Sur Gibault, enfin, elle ne donne pas de caractéristiques physiques aux enquêteurs, mais assure à Libération l'avoir identifié en raison de son physique malingre, presque chétif. Je cite, « Il était plus petit que tous les autres », ajoute-t-elle. Fin de citation. Si Mazneff n'a pas donné suite à nos sollicitations, Gibault nie en revanche toute implication dans les faits de nature sexuelle et juge inexact le récit d'Inès. Sans pouvoir les mêler formellement aux mêmes agissements, la plaignante dispose de souvenirs sensoriels de l'ex-directeur de la banque Worms, Claude Janssen, et de la voix rauque de l'architecte italien Riccardo Gaggia. Les deux sont décédés. Je cite, Eux, je sais qu'ils étaient là, qu'ils étaient parfois là, explique-t-elle. Mais je n'ai aucune image d'eux qui me faisait directement du mal. Fin de citation. Ils nous scrutaient comme s'ils voulaient voir à travers nous. À compter de 1980, ces jeux vont s'interrompre. Les travaux du 97 rue du Bac achevés, les Lemaire et leurs enfants vont enfin s'installer au premier étage dans les magnifiques salons littéraires qu'occupait autrefois la princesse de Salm. D'autres pratiques, elles, vont naître, comme les étranges présentations en clôture des dîners du lundi. Ces gueuletons resserrés vont essentiellement concerner les plus intimes, de Jean-François Lemaire, dont ceux qui naissent désignent comme ses agresseurs. La petite fille était alors invitée à patienter dans le salon le temps que le repas soit fini. Ensuite, elle devait monter, parfois avec son frère, en pyjama et robe de chambre, se présenter aux invités dans une pièce très particulière de l'appartement qu'elle nomme la cabine de bateau. Ovale et asphyxiante, elle reproduit l'intérieur d'une cabine de navire avec hublot et carte marine accrochée au mur. C'est d'ailleurs sous cette carte qu'elle trouvera entre autres les livres dédicacés de Mazneff à son père adoptif, ainsi qu'un exemplaire du livre de dialogue entre Revel et un de ses fils, le moine bouddhiste Mathieu Ricard, le moine et le philosophe. Une fois devant les hommes qui la regardaient intensément, je cite, ils nous scrutaient comme s'ils voulaient voir à travers nous. Inès devait répondre à des questions d'apparence banale, comme qu'aimes-tu à l'école? Qu'as-tu fait aujourd'hui? Puis, passé quelques minutes, les hommes quittaient la pièce ensemble pour une porte dérobée qui débouchait directement sur le grand escalier de l'immeuble. Inès se dit incapable d'expliquer le sens de ce cérémoniel. Était-ce une présentation de l'enfant dans le but d'une rencontre ultérieure? Ou ces hommes venaient-ils simplement chercher une certaine excitation sexuelle? Et puis, jusqu'en 87, Inès décrit des viols perpétrés individuellement par Humbert et Mazneff de manière plus ou moins régulière. Avec l'écrivain qui s'invitait régulièrement à déjeuner, les viols avaient lieu à l'hôtel Pont-Royal, situé rue de Montalembert, à deux pas de son prestigieux éditeur Gallimard, et dans l'entre-deux portes, liant l'entrée à la salle à manger du 97 rue du Bac. Mazneff se saisissait alors des cheveux crépus de la petite fille et l'appelait ma petite chose exotique. Là encore, son père adoptif, dont la profession lui permettait de faire des ordonnances à foison, lui faisait boire le fameux liquide blanchâtre qui donnait un effet planant. Une séance photo en présence de son père adoptif et de plusieurs hommes. Ces scènes plaisaient à Jean-François Lemaire, qui arrivait généralement avant la fin pour les observer en arrière-plan. D'ailleurs, ce dernier veillait à ce qu'elle n'aille pas chez le coiffeur afin de stimuler l'appétit sexuel de Mazneff, comme le dit aujourd'hui Inès. Depuis, elle entretient un rapport pathologique à ses cheveux, toujours coupés à ras, quand elle ne porte pas un bandana ou un chapeau. En parallèle, Inès dit aussi avoir été victime de viols réguliers de Claude Humbert, perpétrés donc rue du Bac, tant rue du Bac qu'au domicile parisien du fondateur du Point, ainsi que dans sa maison de campagne située dans la ville suisse de Perroy, sur les bords du lac Léman. Sans qu'elle ne puisse l'expliquer, elle se souvient qu'Humbert et Mazneff l'avaient rebaptisée Agnès. Enfin, il y aurait du Bac des prises de vue pédopornographiques. Dans Les Passions schismatiques, Gabriel Mazneff évoque le rapport des pédocriminels aux images d'enfants en ces termes, je cite, aimer les très jeunes, c'est kidnapper l'instant, vivre l'instant. Si les pédérastes sont souvent des fanatiques de la photo, c'est parce que celle-ci donne l'illusion de fixer le temps, d'opérer l'alchimie qui transmute le fugitif en éternité. Fin de citation. Une séance qui l'a particulièrement choqué s'est déroulée dans la cuisine de l'appartement, en présence de Jean-François Lemaire et plusieurs autres hommes. Vêtu d'une simple chemise de nuit, où il était écrit bonne journée devant et bonne nuit derrière, la petite Inès a dû se plier à des poses suggestives et dénudées. L'un des rares clichés de cette séance où elle pose habillée finira dans l'une de l'édition du 11 février 1982 d'Impact Médecin, un magazine médical dont Jean-François Lemaire assure alors la rédaction en chef. À l'intérieur, un écrivain est mis à l'honneur, Mazneff. Sa chronique commence par ces mots, je cite: dans l'avion Paris-Bombay-Bangkok-Manille, je suis envahi une nouvelle fois par cet exquis sentiment d'invulnérabilité qui m'habite dès lors que je pars en voyage. Sensation absurde peut-être, mais toute puissante, d'être hors d'atteinte. Les ennuis riment avec Paris. Fin de citation. Il faut attendre la période 86-87 et les 13 ans d'Inès pour que cessent définitivement ces crimes. C'est aussi la date à laquelle Mazneff va entamer sa relation d'emprise avec Springora, l'autiste du consentement. Interrogé par sa fille à l'EHPAD, le maire lui en expliquera la raison de vive voix. À partir de 12-13 ans, les corps des garçons et des filles se différencient et perdent l'apparence glabre qui si tend aux pédocriminels. Délivrée mais brisée, Inès tente d'attirer l'attention des professeurs de son collège en se scarifiant les jambes avec des fléchettes d'un jeu offert par son parrain. Je cite: j'avais en tête l'idée que j'ai depuis toute petite, que l'une d'elles pourrait me prendre avec elle pour m'offrir une nouvelle famille, confie-t-elle. Fin de citation. Le soir même, Jean-François Lemaire jettera son épouse dans l'escalier en représailles, comme un serment qu'il ne faudrait jamais recommencer. On passe au complément sur Jean-François Revel, l'auteur de ce complément, et Simon Blin. Revel accusé de pédocriminalité, un pamphlétaire emblématique devenu académicien. Partout où l'on trouve Claude Imbert, ou presque, apparaît Jean-François Revel, qui n'est cité dans son récit comme faisant partie du groupe d'hommes lui ayant imposé des sévices sexuels durant son enfance. Les faits font l'objet d'une enquête préliminaire, donc au parquet de Paris. La femme, aujourd'hui âgée de 50 ans, assure que le philosophe qui a entretenu une relation étroite avec Claude Imbert était l'un de ses agresseurs. Figure de la droite intellectuelle dans les années 80, Revel aurait fêté ses 100 ans cette année, donc en 2024. Pour l'occasion, Le Point, qu'il avait rejoint en tant qu'éditorialiste en 82, à la demande de son fondateur, après avoir dirigé l'Express, lui a rendu hommage à travers une série d'articles, je cite. Même absent, il est toujours là, écrit l'hebdomadaire libéral conservateur, qui est allé jusqu'à mettre en scène un dialogue fictif entre Revel, disparu en 2006, et Emmanuel Macron. Fin de citation. C'est dire si l'essayiste prolifique qui fut élu à l'Académie française conserve une aura sur le magazine fondé en 72. Au Point, la complicité de l'inséparable duo Imbert-Revel culminera avec la cohabitation de leurs éditoriaux respectifs en entame du journal. Une amitié faite de passions communes et de cooptation. Imbert et Revel ne se sont jamais cachés de tisser ensemble leur réseau chez les puissants. Je cite, j'ai rencontré plus d'une fois, dans les fréquents et si délicats dîners que Claude et sa femme Alix offraient chez eux, rue du Cherche-Midi, des personnalités politiques que nous venions d'étriller dans Le Point, raconte Jean-François Revel dans ses mémoires. Fin de citation. Entre les deux hommes, c'est l'histoire d'une amitié faite de passions communes, de cooptation au cœur de l'écosystème parisien. De même, Imbert Revel est membre du Club des Cent. Dans le même livre, il se souvient d'avoir été, à l'occasion d'un gueuleton organisé un jeudi, comme c'est la tradition dans ce cercle très exclusif d'amateurs de gastronomie, co-brigadier d'un déjeuner romain qui eut lieu à l'Arquestrat, rue de Varennes. Auteur d'un essai sur l'art culinaire, un festin de paroles, Histoire littéraire de la sensibilité gastronomique de l'Antiquité à nos jours, édition Jean-Jacques Pauvert 79. Revel est également un collaborateur occasionnel du Goemio, le célèbre guide gastronomique, dont Imbert est président puis administrateur à la fin des années 90. Revel est né Jean-François Ricard à Marseille. D'abord professeur de philosophie à l'Institut français de Mexico, puis à l'Institut français ainsi qu'à la faculté de lettres de Florence, conseiller littéraire, écrivain, journaliste, le fin gourmet se fait appeler Revel du nom du restaurant chez Revel, rue Montpensier à Paris, où il a ses habitudes, et finit par changer légalement de patronyme. Il se marie une première fois avec la peintre Yann Le Toumelin, avec lequel il a une fille, Ève Ricard, ancienne orthophoniste, et un fils, le médiatique moine bouddhiste Mathieu Ricard. Ensemble, ils publient un essai sous forme de dialogue, Le Moine et le Philosophe, lors d'une seconde union avec la journaliste Claude Sarraute. Décédé en 2023, il a un autre fils, Nicolas Revel, directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, secrétaire général adjoint de la présidence de la République pendant le mandat de François Hollande et directeur du cabinet de Jean Castex, alors Premier ministre, à Matignon. Face à la gravité des accusations portées par Inès, les trois enfants ont réagi dans un communiqué faisant part de leur souhait que la justice qui a été saisie puisse établir ce qui s'est réellement passé, etc., etc. Ces accusations nous plongent dans une incrédulité d'autant plus profonde qu'elles concernent un homme, notre père, dont nous savons que sa personnalité, comme son comportement tout au long de sa vie, se situe aux antipodes des actes monstrueux qui lui sont prêtés. Bien sûr, bien sûr. Échec à la députation et costume de polémiste. Dans le procès-verbal de dépôt de la plainte, la plaignante dépeint Revel en homme physiquement très lourd, qui sent mauvais, transpire beaucoup, en comparaison au côté lisse et féminin de Mazneff. Rien dans ses mémoires ne laisse imaginer qu'il a commis des sévices sexuels sur des enfants. Tout juste se vante-t-il, à la page 293, d'avoir une botte imparable en cas de situation d'embarras qui prend la forme d'une mimique d'étonnement profond suivie d'un retentissant éclat de rire. Il se souvient ainsi avoir eu recours à ce numéro lorsque son grand ami René Scherrer, philosophe français, fut poursuivi en justice pour avoir serré de trop près certains de ses élèves mineurs. René Scherrer, dont le nom apparaît dans les agendas de Lemaire, est connu pour avoir défendu publiquement la pédophilie avec d'autres dans les années 70-80. En 1974, c'est Revel qui édite dans sa collection Liberté 2000, chez Robert Laffont, le livre controversé de René Scherrer, Émile Perverti, dans lequel l'intellectuel s'en prend à la pédagogie moderne qui empêche les enfants de satisfaire l'immensité de leurs désirs. Plus tard, en 1982, René Scherrer est mis en cause avec Mazneff, entre autres dans l'affaire du Corral, un centre éducatif du Gard aux méthodes alternatives soupçonné de cacher des pratiques pédocriminelles. Je vous renvoie à l'article réseau qui a été fait sur Claude Cigala et toutes les personnes qui ont été vues dans ce centre et tout ce qui a pu s'y passer. Antigaulliste, venu à la gauche anticommuniste, Revel entretient pendant plusieurs années une relation étroite avec François Mitterrand, alors chef de l'opposition face au général de Gaulle. Le futur président socialiste le nomme au comité directeur de la Convention des institutions républicaines, ainsi qu'au contre-gouvernement inspiré des shadow cabinets britanniques pour contester l'action gouvernementale. Mitterrand lui octroie l'investiture dans la circonscription de Neuilly-Puteaux, au nom de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, aux législatives de mars 67. Son échec aux élections et la stratégie de l'union de la gauche l'éloignent définitivement Revel de celle-ci. L'homme de plume préfère en réalité le costume de polémiste, dénonçant le danger totalitaire soviétique alors que les États-Unis sont empêtrés dans la guerre du Vietnam et que l'URSS affirme ses velléités expansionnistes. Son nom s'exporte outre-Atlantique. Revel a écrit une trentaine d'essais, principalement des philosophies politiques, parfois aux accents pamphlétaires. Ses publications lui valent des invitations dans les influentes émissions de Bernard Pivot, Apostrophe et Bouillon de Culture. Son livre Ni Marx, ni Jésus, paru en 70, où il fait des États-Unis le creuset d'une future révolution économique, culturelle, civilisationnelle, connaît le plus fort retentissement. Il confirme peu à peu son libéralisme économique, de plus en plus provocateur, résolument tourné vers l'Amérique. En 77, date à laquelle les enquêteurs situent le début des sévices subis par Inès, son nom s'exporte outre-Atlantique. Le New York Times lui consacre 8 pages et le compare à Voltaire dans un article intitulé « La bête noire de la gauche française ». Revel, qui occupe alors la direction de l'Express, dirige des collections chez Juillard, Pauvert et Lafon et est fait et auto-fait de sa carrière. Il s'apprête à rejoindre Le Point de Claude Ambert. Je cite « Je connaîtrai, grâce à Claude, écrit-il dans ses mémoires, à son doigté amical dans l'art de me faire suivre ma pente en montant, une troisième carrière journalistique la plus heureuse, peut-être, comme chroniqueur au Point. » Fin de citation. Chéri des médias, éditorialiste à Europe 1, puis RTL, Revel voit ses prévisions sur l'indestructible puissance de l'URSS se révéler fausses à la chute du mur de Berlin. Cela ne l'empêche pas d'être reçu à l'Académie française en 1997 et de collectionner, comme Imbert, les récompenses littéraires et les médailles en l'honneur de son œuvre, du prix du livre pour Le voleur dans la maison vide aux éditions Plomb en 1997 au grade de chevalier de la Légion d'honneur. À sa mort en 2006, Le Monde se demande comment résumer cet écrivain, entre guillemets, à facettes, je cite, Il se pourrait que la figure de Socrate constitue la bonne réponse, suggère l'auteur de l'article. Fin de citation. On rêve. Socrate, le pilier de la philosophie grecque dans laquelle les hommes de la rue du Bac puisent leurs pseudo-références, comme le raconte Inès. Jusqu'à son décès, Jean-François chronique dans Le Point où, se souvient-on, à la rédaction du magazine en 2024, il dissertait des heures sur la politique, les femmes et la gastronomie, avec Imbert, qu'il invitait parfois à passer quelques jours dans sa résidence sur les bords du lac Léman, avec sa femme Alix. Résidence où Inès raconte avoir été violée par Imbert. On va maintenant lire le complément donc sur François Gibault. Gibault, l'avocat qui avait l'ascendant sur les autres. Occupant une place privilégiée dans le Paris des lettres et le monde judiciaire, le nonagénaire qui fut le conseil de Jean-François Lemaire fait partie des hommes accusés par Inès pour lui avoir fait subir des sévices sexuels. Avec Mads Neff, il est l'un des seuls protagonistes encore vivants à ce jour, je cite, Gibault, c'est le boss, le vrai cerveau. Le plus dangereux de tous, celui qui dirige et qui a l'ascendant sur les autres, confie Inès. Fin de citation. Le nom de cet avocat, âgé de 92 ans, est cité dans le procès-verbal, comme faisant partie du groupe d'hommes qui lui a imposé des sévices sexuels avec les objets métalliques pendant son enfance, rue de Varennes. Dans cette affaire de pédocriminalité, qui a fait l'objet donc d'une enquête préliminaire, cette figure du barreau est celui qui a rendu possible son malheur d'enfant, poursuit-elle. Pendant des années, il est l'avocat de Lemaire et qui est lui aussi mis en cause. Je cite, Gibault est dans une proximité permanente avec mon semblant de famille depuis aussi loin que mes souvenirs existent, assure Inès, qui dépeint cet adepte de la contorsion et des bains froids comme petit et malingre, tirant sa force de son esprit plus que de son corps. Fin de citation. Le nom de Gibault apparaît sur une copie du jugement de son adoption qu'il a demandé au greffe du tribunal en mars 2000. Est-il intervenu comme conseil lors de la procédure réalisée par l'intermédiaire de la famille adoptive française? Il ne s'est pas exprimé sur le sujet. En 2014, il publie chez Gallimard le premier tome de ses mémoires, Liberamé. Il en dédicace un exemplaire à Inès, comme suit. Je cite, Pour Inès Adair, que j'ai connue au berceau. Fin de citation. Dans ce livre, le nom de Lemaire apparaît à plusieurs reprises, laissant entrevoir le rôle clé qu'occupe ce médecin de profession dans le réseau d'influence tissé par l'avocat chez les puissants. Gibault se souvient par exemple être entré, grâce à Lemaire, au cercle Carpeaux, dédié à l'art chorégraphique et lyrique, dont il a longtemps été vice-président. Il raconte en outre prendre part à des agapes. Alors les agapes, c'est aussi les repas après les séances en loge franc-maçonne pour. C'est le nom qui est également donné à ça. Je cite, Chez Lemaire et Lucienne Lemaire, qui aimaient réunir des gens qui n'étaient pas faits pour se rencontrer. Fantine. Quelle était la nature exacte de ces liens? Selon Inès Gibaud, c'était la faille de Gaston. Donc Gaston, c'est Lemaire, parce que c'est le seul qui est au-dessus de lui. L'avocat occupe depuis de nombreuses années une position dominante dans le monde judiciaire et le Paris des lettres. Il avait pris la lumière encore récemment en 2021 à l'occasion de la découverte d'œuvres inédites de Céline dont il est l'exécuteur testamentaire et auquel il a consacré une biographie aux éditions Mercure de France. Ayant droit de Lucette Destouches, la veuve de l'écrivain, il est l'un des plus fidèles amis, son ultime confident jusqu'à sa mort à l'âge de 107 ans en 2019. Gibaud avait pour habitude de lui rendre visite dans sa maison de Meudon en compagnie des confrères prometteurs, de personnalités du monde de l'art ou du showbiz. Il a longtemps reçu des gens de la haute société lors de dîners somptueux dans son hôtel particulier, de la rue Monsieur, donc du 7e à Paris, une fastueuse demeure constellée de toiles de Dubuffet et de sculptures de Brancusi, dans laquelle il est né le 21 mai 1932. Dans cet antre de grands bourgeois, un bronze d'une main de Françoise Sagan, dont François Gibaud fut l'avocat, ainsi que le compagnon de l'ex-mari de l'écrivaine, le mannequin Bob Westhoff, et un autre de l'avant-bras de Céline repose sur une console. Le collectionneur possède également le masque mortuaire de l'auteur du Voyage au bout de la nuit, confectionné le 2 juillet 1961, le lendemain de sa mort à Meudon. La personnalité et le parcours de François Gibaud alimentent tous les fantasmes dans le microcosme germano-pratin. Après avoir été jeune officier de cavalerie pendant la guerre d'Algérie, il milite pour l'Algérie française et défend Alphonse Constantin, ancien légionnaire accusé dans l'attentat raté du Petit Clamart contre le général de Gaulle. C'est son ami Jean-Louis Tixier-Vignancourt, avocat et futur candidat d'extrême droite à la présidentielle de 65, qui lui confie le dossier. Ce n'est pas la seule personnalité d'extrême droite qui fascine François Gibaud durant sa vie. Dans Libérame, il fait part de son éblouissement lorsqu'il rencontre Jean-Marie Le Pen pour la première fois dans les années 60, et vante les qualités d'écrivain de Marc-Édouard Nabe, figure montante de la scène littéraire parisienne avant d'être marginalisé pour ses pamphlets antisémites. Quand il voit le roi tout nu, il ose le dire, ce qui en fait un écrivain scandaleux, infréquentable, impubliable. Il se drape volontiers dans sa tunique d'écrivain maudit, c'est son côté blois, comme lui, c'est un des meilleurs écrivains de sa génération. Fin de citation. François Gibaud, qui œuvre à faire revivre les écrits jamais publiés de Céline, invite Marc-Édouard Nabe et ses amis de confiance à Meudon. Une autre relation de l'avocat, beaucoup plus intime, a lui aussi fait de nombreux voyages chez Lucette Destouches, Philippe Nicolic, le membre des To Be Free, éphémère boys band, connu pour Partir un jour. Gibaud a 60 ans quand il rencontre l'enfant de Longjumeau, 18 ans, dans une salle de sport à Paris. L'avocat prend la coqueluche des hit-parades sous son aile, l'introduit dans les mondanités, l'emmène aux États-Unis, en Russie. Il devient son Pygmalion, confesse-t-il dans son livre. Étrange relation entre ces deux hommes que tout oppose a priori, le vieux lettré, mentor d'apprenti ténor issu de la prestigieuse conférence des avocats du barreau de Paris, sélectionné après un concours d'éloquence, et le sportif, éphèbe, de la lointaine banlieue parisienne, soudainement décédé en 2009. À son domicile près des Invalides, Gibaud conserve un étonnant souvenir de sa relation avec le chanteur, une statue façon dieu grec de Philippe Nicolic, exhibant fièrement son appareil génital, relate Vanity Fair. Je cite, Je l'ai fait envoyer se faire sculpter par un ami, commente le maître des lieux. Fin de citation. Quelques années avant la mort de l'ex-leader des To Be Free d'une surdose médicamenteuse à l'âge de 35 ans, il lui dédie son livre Un cheval, une alouette, édition à table ronde en 2000. Je cite, À mon fils en quelque sorte. Fin de citation. Il faut dire qu'il l'a façonné, cultivé, éduqué. Je cite, Jamais je n'ai eu de meilleur élève avec ses muscles longs de félin et son squelette de chat. Fin de citation. Il lui a ouvert son impressionnant carnet d'adresses, invité à dîner chez Claude Pompidou, à Rabat, avec le roi du Maroc, avec Johnny Hallyday, Alain Delon, Jacques Vergès, Patrick Besson, ou encore Jérôme Béglé, l'actuel directeur général de la rédaction de Paris Match, que Gibaud a rencontré en 1996 alors que le journaliste écrit un portrait de Philippe Nicolic. Passé par Le Point et récemment Le Journal du Dimanche version Bolloré, habitué des plateaux de CNews, la chaîne d'information en continu du même milliardaire breton, Jérôme Béglé est qualifié de frère d'intime par Gibaud dans Libérame. Je cite, Jérôme Béglé, éminence grise de ce petit monde dans lequel il m'a introduit, dont je fais volontiers mon confident, parce qu'il est au plus haut degré le sens de l'amitié et qu'il est secret comme une sépulture. Fin de citation. Jérôme Béglé, l'un de ces innombrables liens entre Gibaud et Maznef, plume qu'il admire et qu'il recrute comme chroniqueur pour le site du Point en 2014, jusqu'à ce que la publication du consentement ne vienne jeter une lumière crue sur les agissements pédocriminels de l'auteur des moins de 16 ans. Longtemps, Gibaud, qui s'est fait un nom en défendant aux côtés de Spitzner, Jean Bedel Bokassa, l'empereur déchu de la Centrafrique, puis le dictateur libyen Kadhafi. Plus récemment, il défendait l'avocat et pamphlétaire anti-Macron, Juan Branco, après son arrestation au Sénégal. Partage avec les autres membres de la bande de la rue du Bac un penchant certain pour les brasseries chics de la rive gauche. Avant que le grand âge n'espace ses rendez-vous, il se rendait depuis des lustres chez Lippe, au 151 boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement de Paris, célèbre établissement fréquenté par Mads Neff, avec lequel Gibault n'a pas rompu, malgré la déflagration médiatique et judiciaire suite à l'apparition du consentement. Les deux hommes ont-ils collectivement commis des crimes sexuels à cette époque? Contacté, Mads Neff n'a pas donné suite. Joint également, Gibault assure par la voix de son conseil, Jérémy Assous, n'avoir jamais assisté au moindre acte criminel et n'aurait pas manqué, si cela avait été le cas, d'y mettre un terme et de les dénoncer immédiatement aux autorités. L'autre repère où se repaît Gibault est le Voltaire, adresse amarrée à quelques encablures sur les quais de Seine, où il retrouve à l'époque une bande d'inséparables convives, comme il le raconte dans Libérame, Jérôme Béglé, l'écrivain Patrick Besson, l'ancien journaliste de Paris Match Gilles Martin Chauffier, le futur ex-directeur de la rédaction du Point, Sébastien Le Foll, je cite. Il m'a donné confiance, il m'a décomplexé, il a été mon champollion pour décrypter la société parisienne, confesse ce dernier dans Le Monde à propos de Gibault. Fin de citation. Des invités extérieurs se joignent parfois à la tablée, souvent Patrick Poivre d'Arvor, l'ancienne vedette du 20h de TF1, aujourd'hui mis en examen pour viol. Je cite, lors de ces festins, Gibault aime que la compagnie soit agréable et que le vin soit fin et que les gens soient heureux de se retrouver, souligne Béglé dans Le Monde. Fin de citation. Dans ce cercle d'amis, jamais de femmes. Seule Carla Bruni fut invitée une fois. François Gibault l'emmena par la suite à Meudon, chez Lucette Détouche, en compagnie du reste de la troupe. Plus tard viennent s'ajouter à ces repas deux jeunes avocats promis à un brillant avenir, le médiatique Charles Consigny, engagé à droite, rencontré chez Jérôme Béglé, et Jérémy Assous, son conseil actuel. Gibault lui apprend le métier d'avocat, le forme dans son cabinet, l'embauche comme collaborateur, le conduit à Meudon, il devient son mentor. Je cite. Cet étalon est un pur produit de mon écurie et j'en éprouve une certaine fierté, détaille-t-il dans ses mémoires. Fin de citation. Le nonagénaire le choisit pour le défendre avec l'autre, ayant droit de Céline, lorsque l'affaire du trésor retrouvé prend une tournure judiciaire. Jérémy Assous est l'un des enfants les plus prometteurs de sa nombreuse famille, écrit Gibault dans son livre Testament, qu'il dédie à son vrai fils, César Peng, qu'il a eu à l'âge de 79 ans avec son compagnon chorégraphe Gang Peng. Je cite, à César Peng, avenir du monde. Vous avez bien entendu, donc à 79 ans avec son compagnon homosexuel, ils ont donc adopté un enfant, acheté un enfant. Les influentes amitiés de la bande de Jean-François Lemaire. Depuis la plainte d'Inès à l'Office des mineurs, épluche des lettres, des agendas et des livres d'or du docteur Lemaire. Ces documents dessinent les liens étroits d'un groupe qui partage rendez-vous, voyages et dîners, et utilise son influence pour protéger le père adoptif de la plaignante. Inès dit de son enfance qu'elle fut baignée de masculin. Elle était une petite fille silencieuse, déambulant tel un fantôme dans de grands salons peuplés d'hommes qui n'avaient aucune attention pour elle, sauf lorsqu'il s'agissait de disposer de son corps pour lui imposer d'innommables sévices. Adoptée par les époux en 1974, après un parcours sinueux, Inès a grandi dans le faste du Paris littéraire élitiste et cérémonieux. Son père, le maire, un intrigant médecin, était fasciné par les écrivains intellectuels, surtout ceux qui défrayaient la chronique comme Mads Neff. De tous ses amis huppés, Mads Neff, au penchant pédophile revendiqué, semblait être celui qui le fascinait le plus, raconte Inès. Je cite, lorsqu'il entrait dans une pièce, il captait l'attention avec ses manières très sophistiquées d'être en société. Fin de citation. Comme lui, le maire est un descendant de Russes blancs, ses tenants de l'ancien régime ayant émigré pour fuir les bolcheviks et la révolution de 17. Pour comprendre la façon dont le silence a longtemps recouvert les sévices sexuels subis par Inès, il faut se figurer cette société de rive gauche, ses usages, ses rituels et son goût immodéré du secret. Il faut aussi appréhender les faits énoncés comme étant l'œuvre d'une bande soudée qui a traversé les décennies sans trop se désunir. C'est d'ailleurs par ce terme, la bande, que le maire désigne dans ses agendas ses camarades les plus fidèles avec lesquels il réalise des voyages réguliers à l'étranger, notamment en Asie du Sud-Est. Dans ce monde, les amitiés sincères sont toujours concurrencées par l'envie d'en être, les intrigues de palais, les réussites jalousées, les brouilles politiques. Mais au 97 rue du Bac, au cœur de cet appartement monumental du 7e arrondissement, propriété auparavant de la famille d'Ormesson, une constante ne pouvait être démentie, les hommes régnaient en maître. Une même communauté de pensée et une fascination pour les Grecs et les Romains. Aux origines de la bande, il y a le lycée Carnot, situé sur le très rupin boulevard Malesherbes, dans le 17e arrondissement. Le maire y rencontre le futur fondateur du Point, Humbert, qui devient directeur, et celui qui deviendra directeur de la banque Worms, Claude Janssen. Si Inès identifie sans le moindre doute le premier comme auteur de plusieurs viols et sévices, elle dispose de souvenirs plus fragmentaires du second, qu'elle situe néanmoins dans la même communauté de pensée. Car c'est au lycée Carnot qu'est née la fascination du trio pour les Grecs et les Romains, civilisation centrale dans la justification de leurs pratiques pédocriminelles. Ce culte de l'histoire antique et de la philosophie hellénistique est l'un des ferments les plus profonds des tourmenteurs d'Inès, parmi lesquels, outre le maire, donc Humbert, Maznef, Gibaud, Revel. Durant leur carrière, beaucoup d'entre eux ont accumulé les références à l'Antiquité, égrenées de chroniques, de journaux en interview jusqu'à leurs propres livres. Dans leurs nécrologies respectives, Revel est comparé à Socrate dans Le Monde, Humbert à Trajan dans Le Point. Leur profession de foi la plus crue, c'est peut-être Gabriel Maznef qui la livre dans Les Passions schismatiques, un essai de 77. Je cite: Je crois à la fonction socratique de l'adulte, les anciens Grecs appelaient l'intelligence hégémonikon, qui signifie le guide, on l'a déjà cité. Dans un texte qui est toujours possible de lire sur Le Monde, daté de 82, Maznef expose: J'ai tenté de montrer dans les moins de 16 ans que le goût de l'extrême jeunesse n'est pas le de l'homosexualité. Un homme peut très bien avoir le désir des femmes, se marier, être l'amant d'innombrables jeunes filles, et dans le même temps ne pas être insensible au charme et à la grâce et à la vénusté de certains jeunes garçons imberbes. Fin de citation. Une allusion parfaitement claire à la pédérastie, dont la permissivité était ardemment défendue par certains membres du groupe. À la lumière du témoignage d'Inès, Libération a relu la majorité des livres de Gabriel Maznef. Au fil des pages, principalement dans ses fameux journaux intimes, on croise les personnages de la 97 rue du Bac. Dans Mes amours décomposés, par exemple, couvrant 83-84, durant laquelle Inès dénonce des viols de sa part, il n'est pas rare de croiser l'auteur sortant d'un déjeuner de chez son ami le maire. Maznef lui envoie aussi des cartes postales éloquentes de ses lointains voyages où il loue en 85, je cite, les jeunes demoiselles philippines si jolies et si peu farouches. Fin de citation. L'écrivain a d'ailleurs une formule bien à lui pour qualifier leur penchant pédocriminel. Il dit l'amant de l'extrême jeunesse. Électron libre, Maznef semble être celui qui s'affranchit le plus des cénacles parisiens pour assouvir ses crimes. Dans Les Passions schismatiques toujours, il raille d'ailleurs le microcosme germano-pratin qu'il vénère autant qu'il le méprise. Je cite: Mes amis pédophiles peuvent témoigner que ce n'est qu'exceptionnellement que j'utilise les réseaux de notre secte, parle-t-il ici des hommes de la rue du Bac. Maznef n'a pas répondu à Libération, donc je reprends. Que j'utilise, c'est important, que j'utilise les réseaux de notre secte où l'on se refile les gosses, où l'unique séduction est celle du portefeuille, qui joue de façon ou d'une autre un rôle d'importance dans les relations sexuelles entre adultes et enfants, où la frontière qui sépare l'amour de la vénalité n'est jamais clairement tracée. Fin de citation. C'est intéressant, là, il pose encore des mots, hein. On parle bien d'un réseau et d'une secte où on se refile des gosses. Donc on parle bien d'un réseau pédocriminel. Pas juste une bande de potes, il y avait d'autres personnes dedans. D'autres personnes que Inès connaissait pas forcément, des gens qui venaient qu'une fois, etc., etc. Et Inès n'a pas tout vu. Hein, c'était la fille de le maire, elle faisait certaines choses. Vous pensez bien qu'il y a eu d'autres enfants dans d'autres endroits. Il y a peut-être eu des choses plus sales, il y a peut-être eu des choses qu'on ne mélangeait pas avec la famille, évidemment. Je continue. Rendez-vous, dîner et voyage. Si on ignore comment Maznef et Lemaire se sont rencontrés, les agendas de ce dernier, ainsi que les livres d'or de la rue du Bac, tous désormais aux mains de Loffmine, qui enquête depuis 8 mois, indiquent que les liens existent depuis 1961. Il manque plusieurs millésimes non retrouvés. Ces ouvrages agissent comme une mémoire figée de nombreuses interactions entre les membres du groupe. Ils documentent en tout cas les rendez-vous et les dîners mondains suffisamment importants pour être notés sur une période allant de 59 à 85, ce qui inclut donc les faits. Humbert y apparaît le plus, 133 fois. Puis viennent Claude Janssen, 86 fois. Gibaud, 72 fois. Maznef, 21 fois. Revel, qui était le moins infodé à la vie des groupes, 2 fois. Je cite: Ces agendas sont comme des repères, mais ils ne sont qu'une infime échantillon des liens qui unissaient ce groupe, assure Inès. On allait aussi déjeuner ou dîner chez la plupart de ces hommes, chez qui il faudrait disséquer en retour toutes les traces archivées. Pour les plus intimes, Humbert, Janssen, Gibaud notamment, il n'y avait pas besoin d'invitation ou d'occasion pour qu'ils passent à la maison. Souvent, ils sonnaient et ils montaient à l'improviste. J'ai dû partager une intimité égale avec eux tous. Fin de citation. Dans les carnets apparaissent aussi les nombreux voyages de Lemaire. En 63 à Bangkok avec la bande ou l'accompagne Janssen. En 64 en Égypte avec Yudi Chelli, l'éditeur de Maznef chez Gallimard. Décédé en mai 2022, il avait été éclaboussé par des propos de l'écrivain qu'il avait décrit en touriste sexuel à Manille, Philippines, en quête de jeunes garçons. En 66, le maire retourne à Bangkok avec Janssen, Des codes sont inscrits sur les pages, étaient-ce des numéros de chambre? 77 et 78, il est à Tunis, avec Maznef. Les deux acolytes seront également pris en photo ensemble, à Marrakech. Enfin, en 77 toujours, un agenda mentionne Gibo, Chine. Souvent adossés à des conférences, des congrès ou des rencontres littéraires, ces voyages dans des destinations connues, pour être aussi des lieux de prostitution de mineurs, revêtaient-ils des intentions plus inavouables? Contacté par Libération, Gibo a assuré ne pas avoir connaissance du moindre fait criminel, ni toute implication, etc. Avant de mener la grande vie, le maire avait été médecin militaire en Algérie. D'où tirait-il la fortune qui lui a permis d'acquérir le somptueux appartement rue du Bac, dont les plafonds de style empire sont classés? L'hypothèse d'Inès est surtout qu'il a puisé dans la fortune de Lucienne, son épouse, descendante d'une grande famille d'industriels lyonnais. Car une fois rentré d'Algérie, où il eut comme beaucoup d'autres son lot de décorations, sa vie fut marquée par quelques scandales retentissants. Médecin agréé auprès des assurances, il a d'abord été impliqué dans un curieux accident de voiture à Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, en 72. Son véhicule, qui a effectué un impressionnant vol plané selon la presse locale, s'est ensuite échoué en contrebas de l'autoroute A7 pour finalement prendre feu. Le maire s'en tire en réussissant à s'extraire in extremis de la carcasse. Mais il perd quasiment son œil gauche, qu'il ne pourra plus ouvrir pour le restant de sa vie. D'où le surnom « le Cyclope », que lui accolera Inès et qui le confondra lors des sévices sexuels. Quant à la passagère de la voiture, elle meurt calcinée, mais son identité demeure floue, puisqu'elle changera dans les différents procès-verbaux de la procédure. Enfin, un autre passager mystérieux se serait enfui. Donc, on imagine que la passagère n'était peut-être pas majeure. Après la condamnation, un travail de réhabilitation. Le 7 juillet 81, le maire est cette fois condamné dans une affaire au retentissement national. Durant quelques mois, il a en effet été président-directeur général du Cœur Assistance, un service médical d'urgence cardiaque reposant sur un abonnement payant, fondé en 1974 par Bernard Tapie et Maurice Mességuier. Le dispositif ne résiste que 3 ans, torpillé par une plainte de l'Ordre des médecins qui aboutit à un procès. Le maire y est formellement condamné pour publicité mensongère, mais n'écopera que d'une amende symbolique de 3 000 francs. Faut-il voir dans cette clémence le résultat de l'action de son réseau qui s'est activé en amont du procès pour lui éviter l'opprobre? 3 000 francs, 450 euros. Dans le fatras de l'appartement rue du Bac, qu'elle a vidé avec ses proches quand ses parents adoptifs ont rejoint une EHPAD en 2020, Inès a remis les mains sur ses correspondances édifiantes. Dès juin 80, soit un an avant le procès, Humbert, déjà patron tout-puissant de l'hebdomadaire Le Point, écrit une lettre à Paul-André Sadon, procureur général près de la cour d'appel de Paris. Si Inès n'a pas retrouvé la missive initiale, elle a en revanche remis la main sur la réponse du magistrat, datée du 5 février 81. Sadon écrit, je cite, « Vous m'avez fait part de votre émoi en apprenant que l'un de vos amis de jeunesse, le docteur Lemaire, se trouvait impliqué dans une procédure de publicité mensongère. Je comprends le désarroi de Lemaire, dont vous avez tenu à souligner à mon intention le désintéressement et l'honnêteté qui supporte les conséquences liées à son inculpation. Sans préjuger de la décision qui sera rendue par le tribunal, j'ai le sentiment que l'on peut très raisonnablement escompter en ce qui le concerne une peine extrêmement modérée, voire de principe. En tout état de cause, soyez assuré, cher monsieur, que j'ai pris bonne note des excellents renseignements que vous m'avez communiqués sur le maire et il en sera fait le meilleur usage. » Fin de citation. Même si elle s'avère effectivement symbolique, la condamnation de le maire est une tâche, pire, un déshonneur. Dans le Saint-Germain-des-Prés, précieux et guindé. Son puissant réseau va alors œuvrer pour le réhabiliter, faisant émerger à travers leurs nombreuses missives une histoire des coulisses de la Ve République. Dès le 15 septembre 81, l'Ordre des médecins, alors même que le maire a été condamné au pénal, va lui faire savoir qu'il retire l'action disciplinaire intentée contre lui. Puis c'est une succession de missives de ses amis, Humbert, Georges Bérard-Quélin, président du puissant club du siècle, regroupant de nombreux patrons de presse qui vont déferler sur les plus hautes huiles de l'État. Le but, faire effacer le casier judiciaire du docteur en vertu de la loi d'amnistie promulguée dès son arrivée au pouvoir par Mitterrand, et ce pour que le maire soit proposé au grade de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Dès 70, son grand ami, Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'Économie et des Finances de Pompidou, avait pris un décret le consacrant chevalier de l'Ordre national du mérite. Gibault est parmi les plus intimes depuis toujours. La famille Giscard d'Estaing est en effet très présente au 97 rue du Bac. De nombreuses lettres, signatures de registre, talons d'entretien téléphonique en attestent, et pour cause. En juin 65, le maire fait partie des membres fondateurs de l'association Perspective et Réalité, dont les comités sont les fantassins de l'accession de Giscard à la présidence de la République en 74. L'ex-maire de Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, qui déjeune parfois en trio avec le maire et Humbert, ne l'oubliera jamais. Sous sa mandature, le docteur sera bardé d'autres décorations, notamment chevalier de l'ordre des arts et des lettres, honneur permis par le secrétaire d'État de la Culture de Giscard, Michel Guy, autre signataire régulier des livres d'or de la rue du Bac. Au gré des pages, on retrouve ainsi Olivier Giscard d'Estaing, frère du président et lui-même député. Le maire voyage d'ailleurs avec lui au Liban en 64. Il figure enfin le ministre de Pompidou, André Bettencourt, son premier ministre de l'époque, Pierre Messmer, l'entrepreneur Guy Tétinger, donc des champagnes, ou encore l'écrivain qui revenait au domicile de son enfant, Jean d'Ormesson. Durant toutes ces années, le maire a pu compter sur Gibault pour veiller au mieux sur ses intérêts. L'avocat qui a été son conseil personnel était aussi celui des hautes affaires de la République. En 87, notamment, il défend Bokassa, puis Kadhafi, notamment dans l'attentat à la bombe commis contre les décédistes du TA, dont le crash a fait 170 morts en septembre 89. Mondain à souhait, hôte lui aussi des dîners mirifiques, Gibault suscite tous les fantasmes. On le dit stratège, correspondant du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, l'ancêtre de la DGSE, et doté lui aussi d'un réseau tentaculaire, notamment à l'Ordre des avocats de Paris. Aujourd'hui âgé de 92 ans, il était encore sur le devant de la scène il y a peu, dans l'affaire des manuscrits de Céline. Inès dit de lui, je cite, Gibault est parmi les plus intimes depuis toujours, il est dans une proximité permanente avec mon semblant de famille depuis aussi loin que mes souvenirs existent. Lui, c'est le chef de la troupe. Un homme petit et sans envergure physique, il pourrait passer inaperçu en réalité. Pourtant, il est autrement plus puissant que les autres. Je dirais que c'est une puissance intellectuelle. Dans mon enfance, Gibault, c'est le haut de la pyramide hiérarchique, le chef de la bande. La notion d'appartenance est d'autant plus prégnante avec lui parce qu'il est en quelque sorte supérieur à mon père adoptif. Lorsque l'avocat rédige le tome 1 de ses mémoires chez Gallimard en 2014, il en adresse un exemplaire à Inès avec la dédicace donc pour Inès Adair que j'ai connue au berceau. De façon troublante, Gibault se trouve sur une copie du dossier d'adoption d'Inès qu'il a demandé au greffe en 2000. Pourquoi il ne s'est pas expliqué sur ce point. Homme à double visage et à double vie. Combien de services se sont-ils rendus, les hommes de la rue du Bac, depuis les coulisses feutrées des cercles où ils adoraient se montrer, parmi donc le Siècle, l'Automobile Club de France, la Brasserie Lippe. Mais le plus important d'entre eux, c'était peut-être le Club des 100, le Wouzou interdit aux femmes, qui organisait des ripages chez Maxim's. Parmi ses membres éminents, le maire Humbert Revel, à qui le New York Times consacre un long article en 77, intitulé « La bête noire de la gauche française », soudés par leur proximité avec le pouvoir giscardien, ces hommes sont aussi devenus ensuite les mégaphones d'une droite farouchement anticommuniste réactionnaire et empreinte de catholicisme. Et quoi de mieux pour causer politique jusqu'à pas d'heure que la bonne chère et les grands crus? Chez le maire, les dîners courus étaient très ritualisés, jusqu'à laisser à l'hôte la charge de goûter les plats en premier. Apicius, ressuscité rue du Bac, s'extasie d'ailleurs Mazneff sur Livre d'or, 19 juin 1985, faisant ici référence à ce millionnaire de la Rome antique, amateur de plaisir et contempteur des moralistes austères. Apicius, Inès se souvient l'avoir moult fois entendu, notamment à propos de Revel à la descente, remarqué, je cite, Le maire parlait souvent de l'Apicius de Revel et Humbert, sans que je comprenne ce qu'il voulait dire à l'époque, se remet mortel. Fin de citation. Pour compenser les ripailles, certains membres du groupe s'adonnent au jeûne et au bain de glace, entretenant un véritable culte du corps. Existe-t-il un lien entre le rapport de ces hommes à la gastronomie et les sévices sexuels de la rue de Varenne, perpétrés pour majeure partie avec des pièces d'argenterie? Si beaucoup de ces agapes avaient lieu le week-end, d'autres plus resserrées autour des agresseurs que des inines avaient lieu les lundis. Un majordome, Peter, et du personnel s'affairaient alors pour servir les hommes, fascinés également par Napoléon Bonaparte. Esthètes à table, ils s'autodésignent summum de leur cynisme, les Janus bifrons, les dieux romains à deux visages, incarnation des commencements et des fins. Dans la nécrologie officielle de l'Académie des sciences morales et politiques consacrée à Jean-François Lemaire en 2021, il est écrit, je cite, Janus Bifron, Jean-François Lemaire était à la fois docteur en médecine et docteur en histoire, Esculape et Clio, deux figures de la mythologie grecque qui incarnent respectivement ces disciplines. Fin de citation. La référence est encore plus explicite dans cet autre passage des Passions schismatiques de Mazneff, je cite. Tant qu'une improbable explosion n'aura pas révélé que tout le monde est pédéraste, l'amant de l'extrême jeunesse devra pour survivre s'avancer masqué et sera condamné à être un Janus Bifron. Homme à double visage et à double vie. Jadis, je croyais être seul de mon espèce, ou quasi. Mon amour de ce troisième sexe que forment les moins de 16 ans était une singularité qu'autour de moi, personne ne semblait partager. À présent, je sais que nous sommes nombreux, très nombreux. Seulement, nous sommes une société secrète, la dernière des sociétés secrètes, que nous n'avons pas fini de l'être. Fin de citation. Des Janus Bifron qui passent au fromage au dessert, c'est cela qu'observait silencieuse Inès dans ce grand appartement dépourvu du moindre jouet, attendant qu'ensuite ils viennent la chercher. Le responsable, c'est le gosse au départ, les aveux du docteur Lemaire. 35 ans après le supplice de la rue du Bac, Inès lui a fait face dans la chambre de l'EHPAD Le Corbusier de Boulogne. Affaibli physiquement mais parfaitement alerte, Lemaire, 91 ans, accepte enfin le dialogue. Timide les premiers jours, il se fera plus disert à mesure que les conversations avec sa fille adoptive vont se multiplier. Après plusieurs décennies à s'épanouir loin du maudit 97 rue du Bac, Inès veut désormais comprendre comment et pourquoi de tels actes pédocriminels lui ont été imposés. Le déclic fut fulgurant. Longtemps silencieuse sur son passé, elle y sera confrontée brutalement en vidant le vaste appartement de son enfance en octobre 2020 au moment du départ de ses parents en maison de retraite. Par-ci sous les coussins d'un canapé, par-là sous une carte marine accrochée au mur, elle découvre des noms, des dédicaces, des cartes postales, des lettres aux significations vertigineuses. Surtout, elle va trouver scotché à l'intérieur du secrétaire personnel de sa mère, Lucienne, battue par son mari toute sa vie, une mystérieuse enveloppe battue par son mari toute sa vie, une mystérieuse enveloppe contenant les pages déchirées d'un magazine pornographique sadomasochiste. Sur les images figurent uniquement des hommes masqués de noir et montrés dans des positions obscènes et suggestives. Inès y voit la volonté de sa mère de laisser derrière elle une trace de l'indicible qui va déclencher chez elle une légitimité nouvelle à poser toutes les questions, y compris les pires. Si Inès est désormais prête à affronter le maire, c'est aussi parce qu'elle s'est enfin affranchie du carcan de ses agresseurs. En 97, à 24 ans, elle se marie à Geoffroy Ader, un expert en horlogerie, fils de commissaire-priseur et fin connaisseur des arcanes de l'hôtel de Rouault. Ils se connaissent alors depuis 92, car Geoffroy est un ami d'Adrien, le grand frère d'Inès, qui ne souhaite pas voir exposer son histoire. En cela, Geoffroy Ader est un témoin essentiel de l'atmosphère délétère qui régnait chez les Lemaire. Je cite: Quand j'y allais les premières fois, je me souviens d'un malaise difficile à définir. Puis plus j'ai connu Lemaire, plus j'ai découvert un homme détestable. Il hurlait sans arrêt: Lucienne, apporte-moi ceci, Lucienne va faire ça. Plus tard, au repas de famille, Lucienne nous mettait des coups de pied sous la table pour changer de sujet quand elle sentait affleurer une discussion qui n'allait pas lui plaire. Fin de citation. Le maire avait aussi cette manie de faire valdinguer les plats en tirant violemment sur la nappe lorsque la cuisine n'était pas à son goût. Un nouveau rapport de force. Inès Chatin dit de son mari qu'il l'a sauvée, car avant leur réunion, son père adoptif et ses puissants amis semblaient vouloir garder le contrôle de sa destinée. En 91, lorsqu'elle est en terminale au lycée privé de la Tour, dans le 16e arrondissement, le maire l'envoie en stage au cabinet de Gibault, niché dans son hôtel particulier de la rue Monsieur. Le face-à-face d'une semaine la fera frémir. Puis le maire demande à Humbert de prendre sa fille au Point, où elle fera un passage pendant la période des attentats de 95. Je cite: Ils n'ont reculé devant aucune monstruosité, s'emporte Geoffroy Ader, presque plus en colère que sa compagne. Fin de citation. Le summum de l'indécence est atteint en 97 pour leurs noces. Toujours très soucieux des usages et d'afficher sa richesse, le maire veut organiser le cocktail dans ses somptueux salons. Le 30 septembre, Inès est donc contrainte de célébrer son mariage en compagnie de la majorité de ses tourmenteurs. Puis le couple part s'installer de longues années en Haute-Savoie, près de Genève. Ils auront deux enfants et ne reviendront vivre à Paris qu'en 2016. Geoffroy Ader n'a compris que récemment ce qui était arrivé à sa femme entre 77 et 87. Longtemps, il a pensé que les coups sur sa mère avaient généré ce malaise lancinant chez Inès, remarquant toutefois un mal-être physique particulièrement marqué. Le jour où tout est devenu clair, au moment de la liquidation de l'antre du malin, comme il l'appelle, il lui a promis de l'accompagner dans sa quête de vérité, jusqu'à faire paratonnerre de son nom, lui qui est issu d'une grande famille parisienne. Je cite: Ce que nous vivons, ce n'est pas le combat d'Inès, c'est notre combat, et pour le mener, je lui offre aussi mon nom de famille, Ader. Dans notre milieu social, ça compte. Fin de citation. En 2020, c'est donc un tout autre rapport de force qui s'engage lorsque commencent les entretiens avec le maire. Lucienne, elle, occupe une chambre du même établissement, celle en face de sa sœur. Inès avait fait la demande expresse de l'avoir éloignée de son mari, enfin à l'abri. Vu la particularité de la situation, les deux psychologues de l'EHPAD vont aussi être avisés du terrible héritage familial.